Aujourd'hui, bien entendu, aujourd'hui nous allons parler de la Géoula. Et bien, Ezrat Hashem, nous allons voir comment le livre que nous venons de débuter, le livre de Shemot, s'inscrit dans le programme de la rédemption totale et du peuple d'Israël et du monde tout entier, parce que la Géoula d'Israël, en fait, c'est par elle que passera la Géoula du monde. La Géoula du monde, ça veut dire tout simplement que le monde ne vit pas aujourd'hui à son véritable niveau. Autrement dit, le monde est tombé de sa structure première dans un degré qui n'est pas en fait sa véritable identité. Et donc il y a comme un décalage entre la volonté divine et ce qu'il y a dans la réalité humaine. Il y a toujours ce décalage par le fait même que la création est un éloignement de la structure initiale, de l'infini. Donc il y a toujours une perte. Ça fait partie de la vie. La création même est déjà un décalage. Donc c'est presque déjà une certaine chute. Le problème, c'est est-ce qu'on arrive à combler le vide entre ce qui était voulu au départ et ce qui est réellement maintenant, ou bien on continue en fait d'approfondir l'espace, l'abîme qui sépare en fait les idéaux, l'idéal premier de sa manifestation. Donc la création du monde, c'est un éloignement du Créateur. C'est comme si le monde a été accouché. Et le bébé est sorti donc du ventre de l'infini et s'est éloigné de lui jusqu'à atteindre le degré le plus bas. Le degré le plus bas s'appelle Mitzrayim. Une fois que ce degré est atteint, on ne peut que remonter. Donc nous sommes en fait à la limite, à l'extrémité de l'antithèse, on va dire, entre l'infini et ce monde. On ne peut que revenir maintenant et combler le vide et l'espace qui a été créé. Moralité, depuis la création du monde jusqu'à l'arrivée en Égypte, le monde s'éloigne de Dieu. Et depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la Géoula, le monde se rapproche. Et donc chaque instant, nous sommes en réalité en train de combler le décalage, de guérir en fait, de ce décalage entre lui et nous. Maintenant, comment ça va s'inscrire dans le livre qu'on vient de commencer? Eh bien, vous rappelez que le premier livre de la Torah, étant donné qu'il est Bereshit, à l'intérieur du mot Bereshit, il y a le mot Rosh, et Rosh, en réalité, c'est ce qu'on appelle le cerveau, et donc, dans la Kabbalah, il y a une correspondance avec le partsouf le plus élevé de notre monde, c'est-à-dire Chochma. C'est la sagesse. Donc Rosh égale Chochma. Au niveau des mondes, c'est un degré de Keter, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très 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 élevé. En réalité, cette Chochma n'est pas encore aboutie, elle va commencer à se dévoiler dans Shemot. Donc Shemot va véritablement donner à la Chochma sa place. Parce que Keter, c'est la pointe de la Chochma, c'est pas encore véritablement la Chochma. C'est au-dessus, c'est une couronne sur la tête du roi. Donc la véritable sagesse, elle va être maintenant. C'est maintenant que va commencer la sagesse. Et quelle est la sagesse dans ce livre? Eh bien, la capacité à définir. D'accord? Quand je définis quelque chose, ça prouve que je suis un sage. Donc en fait, on peut voir la différence entre deux êtres selon la capacité que ces deux êtres ont de définir les choses. Plus ta définition des choses est claire, limpide, simple, plus ta chokhma en fait évolue. Moins tu arrives à t'exprimer, bien plus ça montre que ta chokhma est petite. Pourquoi? Parce que la chokhma dans le judaïsme, c'est pas seulement un intellect. C'est une capacité à faire. Kulam de chokhma asita. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, sa sagesse n'est pas une sagesse de réflexion, mais une sagesse agissante. Et lorsque ta sagesse en tant qu'homme, que femme, est aussi une sagesse agissante, ça veut dire que tu as une véritable chokhma. Donc seul est considéré comme chokhma une sagesse qui a des pieds, une sagesse qui a des actions, un sens, une action, un développement. Et donc Akadosh Baruch Hu nous a créé à son image. Et si je veux savoir si quelqu'un est sage, eh bien c'est quelqu'un qui sait d'abord transmettre sa pensée au niveau de son verbe, par la définition des choses, et en même temps après par son action. Donc l'action en réalité qui s'appelle la fille dans la Kabbalah, elle a été façonnée par la tête qui s'appelle son papa. Donc Abba Yassad Brata, le papa a façonné sa fille. Donc la sagesse, je vous traduis maintenant par des mots simples, a façonné tes actes. Je vois par rapport à ta manière d'être, quelle est la qualité de ta sagesse. Et c'est comme ça qu'on mesure Akadosh Baruch Hu par rapport à sa création, et non pas par rapport à ce qu'il est. Ce qu'il est, je ne sais pas. Je sais ce qu'il a fait. Et en faisant ce qu'il a fait, il m'a prouvé sa sagesse, sa structure. Inyana Geoula, Hu Kidush Hashem Ba'olam. Donc qu'est-ce que c'est que la délivrance? C'est tout simplement sanctifier le nom, sanctifier les noms. Mais il s'agit ici du nom d'Hachem dans le monde. Écoutez bien, le Kiddush Hachem, je précise cela à plusieurs reprises, mais c'est très important, on ne peut pas écrire Kiddush Hachem, Hachem comme ça. C'est son nom, Hachem, le nom. Pourquoi? Parce que lui, je ne peux ni le sanctifier, ni le profaner. Je ne peux que sanctifier ou profaner, Chas v'Shalom, le nom, c'est-à-dire le dévoilement. Et donc, faire très attention entre lui et son nom. Chez lui, c'est un. Mais par rapport à nous, ce n'est pas encore un. Bayom Hahu, ce jour-là en question, Be'ezrat Hashem, bientôt, il y est Hashem Echad, ou Shmo Echad. Il sera lui et son nom pour nous aussi un. D'accord? Donc, tout le inyan de ce monde, c'est sanctifié. Comment est-ce que je peux sanctifier Hachem dans ce monde? D'abord, en étant sur cette terre d'Israël, en tant qu'homme et femme d'Israël. Quiconque habite encore en dehors de cette terre, il n'y a pas plus grand chiloul Hachem, profanation du nom, que cela. Sachez-le. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ézéchiel, chapitre 36. Vechilaltem etchmi bagoim asher atem vaim shama. Vous profanez mon nom seulement par le fait que vous marchiez dans les rues d'une autre nation au lieu de marcher dans les rues de votre terre. Sefer Shemot, donc le livre de Shemot, ou Sefer Hagdarot, tout simplement c'est le livre des définitions. En hébreu, le Hagdir vient du mot gader, c'est-à-dire donner une barrière. Donc en fait, je rentre la définition dans une barrière. Je définis, je donne une fin à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Pas évident. Amakvil et Sfirat HaChokhma. Donc nous sommes maintenant, bel et bien, dans la Chokhma, dans la véritable sagesse. Hamechuna Yesh. Et la sagesse s'appelle l'existence. Yesh, le Iya. Avant cela, le Keter s'appelle N. Donc le yesh de la chokhma qui vient ici sort du N du keter qui est en haut. On appelle ça yesh me ein. Le yesh qui sort du ein. Donc le véritable premier yesh, la yeshut en hébreu, l'existence de quelque chose, la manifestation d'une chose, ne commence que dans le livre de Shemot. Je peux conclure pour l'instant que tant que les noms ne sont pas dévoilés, Nous sommes encore dans la préhistoire. Dès que le nom commence à se dévoiler, notamment le nom d'Hachem, nous commençons l'histoire humaine. Donc l'histoire humaine commence dans le livre de Shemot, lorsque le peuple qui a été choisi à révéler, pour révéler ses noms, apparaît. Donc tant que le peuple d'Israël n'apparaît pas sur le podium de l'histoire, il y a en fait profanation d'Hachem. Pourquoi ? Parce que personne ne dévoile son nom. Il est sans se dévoiler. Et s'il est sans se dévoiler, pour moi, ça s'appelle profaner son nom. Vous comprenez ? Non, c'est pas encore au niveau du monde. Au niveau du monde, ça doit passer par une nation, pas par un homme.
Donc l'universalisme d'Abraham ne pouvait pas être...
Ne pouvait pas encore aboutir sans avoir la nation. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, « Ve'isra le goy gadol, lo le ish gadol. » Si je voulais que ça soit par un homme, ça me suffit Abraham, tu es déjà un tzadik, je vais t'utiliser, habite là où tu veux dans le monde, et je vais utiliser ta capacité pour dévoiler mon nom. Ce n'est pas le cas. De là, ça nous prouve quelque chose que les religieux, entre guillemets, ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut pas révéler Hachem en tant qu'individu. Même Abraham, le plus grand. On ne peut pas comprendre ça. Alors que c'est quelque chose de très simple. Dieu ne se dévoile que par la nation, l'Israël. Am zu yatsar tili tehilati yatsaperu. On ne peut pas dévoiler Hachem en tant qu'être individuellement parlant. C'est pas ça le travail. Qui est plus grand qu'Abraham? Si c'était le travail, Abraham aurait suffi.
On voit le rap que Moshe Rabbeinu,
quel?
Dans la discussion qu'il y avait avec le Jean-Pro, quand il est après la faute du Vaudor, il était question de garder cet homme-là pour reconstruire un nouveau peuple.
D'accord.
Ça veut dire qu'on voit que c'est quand même l'important d'un industrie.
D'accord. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Akadosh Baruch Hu était en train de plaisanter avec Moshe. C'est tout. C'est une grande plaisanterie. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, en fait, je détruis le monde. Je le ramène à Tohu Bohu. Il attend que Moshe lui dise, mais attends, si la nation n'existe pas, moi je suis rien. Comment tu veux qu'un homme, sans sa nation de laquelle il est issu, puisse faire quelque chose? C'est impossible. C'est la nation qui donne la force à l'homme, pas l'homme à la nation. Donc il attendait de Moshe de dire ce que Moshe a dit. Alors efface-moi. Et si tu les effaces, tu m'effaces moi aussi. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Chazak ou Baruch, je viens de comprendre que tu comprends. C'est un jeu. Ça se sent en réalité, c'est le sens humoristique de la Torah, que vous, que nous ne voyons pas, parce que quand on lit la Torah, on le lit sans le véritable verbe. Si on avait quelqu'un qui savait lire la Torah, vous comprendriez, hein, le véritable sens. Mais comme c'est lu toujours pareil, tu sais pas ce qu'il veut dire. Mais si celui qui lit savait te faire sentir la chose, te faire vivre la chose, eh bien, il aurait lu comme ça. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, quel? Et Moshe lui dit, Mechelina Misifrecha, Asher Katavka. Ça jamais, vous avez entendu quelqu'un lire comme ça. C'est du plaisanterie. On a le droit de plier. On a le droit de lire comme ça. Au contraire. Il faut lire comme ça, avec le Tam. Mais je donne aussi le sens de ce que je suis en train de dire. Quand vous chantez Manishtana Laila Azek et que vous ne posez pas la question, c'est un chant, les gens ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Mais si tu disais à tes enfants Manishtana Laila Azek, là tu commences à vivre la chose, c'est autre chose. Donc en réalité, le livre de Shemot, vous comprenez la force de la définition des choses et de la manière d'acheminer le message que je veux dire. C'est pour ça que sur WhatsApp, des fois, il y a des malentendus. Parce que l'autre, il te parle dans une plaisanterie, et toi, tu sais pas l'air qu'il a quand il écrit.
Quand il a la sagesse, elle passe automatiquement.
Non. Non, ça ne passe pas. Si je ne sais pas mettre le point et la virgule là où il faut, ça ne marche pas. Ah, ça c'est autre chose. Et quand je comprends ce que je dis, alors je dois le faire passer. Mais quelqu'un qui ne sait pas où mettre les virgules et les points, au lieu de lire, par exemple, dans les 10 paroles qui vont être données au Mont Sinaï, Lo tignov, qu'est-ce qu'il va dire? Lo tignov. Mais c'est pareil. Alors, au lieu de dire ne vole pas, il te dit mais pas du tout, vole. Et qu'est-ce que je viens de faire? J'ai dit la même chose. Mais j'ai changé l'air de ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? C'est différent. Donc, Sefer Shemot, Poter et ta historia enoshita musari. Donc, c'est seulement dans ce livre que la morale humaine commence à se déployer, à déployer ses ailes. Et tout le sens de cette création et de ce monde et tout ce qui a été, c'est tout simplement pour révéler les valeurs de l'infini dans cette création. C'est ça l'expression de nos sages. Dira batartonim, c'est-à-dire une maison, un appartement, une appartenance dans les mondes d'en bas. Et la chose ne peut se réaliser que lorsque le peuple d'Israël apparaît. Aïssouk Beshemot, ou Alimud Amiti Vapnimi Beyoter Shela Torah. Donc, si vous voulez étudier la Torah en profondeur, en réalité vous ne faites qu'une seule chose. Vous vous préoccupez que des définitions. Et toute la Torah n'est qu'un ensemble de définitions. Libra Torah Kilshon Bnei Adam. Akadosh Baruch Hu est descendu de son niveau. Parce que s'il devait nous parler avec son niveau, il l'aurait fait par le silence. Donc si Akadosh Baruch Hu a pris le soin d'habiller son infinité par des mots, c'est déjà une structure limitée. Donc il s'est auto-limité. Lui-même. Pour nous donner, pour être accessible à nous. Quand je veux faire passer un message, j'essaye de l'habiller moi aussi. Et c'est là où on voit un bon orateur, un bon professeur, un bon rav, par rapport à quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire, parce qu'il a lu dans ce livre. Il comprend pas ce qu'il est en train de faire passer comme message, il répète ce qu'il a entendu. C'est pas pareil. Et donc, Akadosh Baruch Hu veut se dévoiler dans ce monde. Et donc, le sens le plus profond de ton étude, pour comprendre ce qu'il veut, nous n'avons qu'un texte, c'est la Torah, eh bien, c'est d'étudier les noms. Moralité, si tu ne comprends pas l'hébreu, la source, la matrice de ce langage divin, qui est caramel, ça marche pas. Parce que toute la Torah, toute entière, n'est qu'un ensemble de noms de la définition de l'infini, qu'on ne peut pas définir. Vous voyez qu'il y a ici un paradoxe. Comment je peux définir l'indéfinissable? Et pourtant, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est-à-dire de prendre ce que tu peux dans ta petite boîte de cet infini. Donc, première phase de ce jeu, c'est tout simplement d'aller chercher les noms. Où sont les noms en Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire en Égypte? Pas dans un pays seulement, dans une idée qui s'appelle l'Égypte, dans un niveau de conscience qui s'appelle l'Égypte, qui veut dire en réalité que je ne sais pas où il est. Mais ça, emprisonné, Mitzrayim, c'est-à-dire l'emprisonnement de l'identité. Donc, toutes les définitions au départ du jeu, c'est que ces définitions sont toutes dans une boîte qui s'appelle Mitzrayim. À toi maintenant d'ouvrir cette boîte, ça va s'appeler la sortie d'Égypte, et tu vas libérer en fait les noms. C'est la même chose. Ce sont toutes les étincelles qui sont tombées en réalité, ou bien par la faute du premier homme, ou bien par plein de choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais il y a beaucoup de lumières qui sont toutes tombées dans cet état de conscience qui s'appelle Mitzrayim, dans cet emprisonnement. Et donc nous sommes là-bas, le peuple d'Israël qui va naître là-bas, que là-bas pour sortir tout ça, pour libérer tout ça. À tel point que quand on va sortir d'Égypte, l'Égypte va devenir Kemetsula She'en Badagim, comme un océan sans poisson, sans vie. C'est-à-dire on a vidé l'Égypte. Donc l'Égypte, depuis ce moment-là, est devenue un musée. C'est tout. Ce sont des pyramides, du sable, il n'y a rien. Il n'y a plus rien.
C'était pas notre devoir de justement remonter l'Égypte.
Il y a fait. Alors, notre devoir, c'était de remonter. C'est pour ça que la Géoula n'est pas encore terminée. Parce que si c'était terminé le travail, eh bien, on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, on est rentré en terre d'Israël, c'est la Géoula. Alors pourquoi ça continue? Parce qu'on n'a pas libéré l'Égypte elle-même. On s'est libéré de l'Égypte, mais l'Égypte elle-même, on l'a laissée dans sa prison. Et donc lorsque Paro court après les enfants d'Israël, c'est en réalité pour demander de le sauver lui aussi. Sauvez-moi moi aussi. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant dans l'histoire? En fait, c'est les nations du monde. Vous, Israël, vous avez profité de cette sortie d'Égypte. C'est votre printemps, certes, mais nous aussi on veut un printemps. Chaque nation veut un printemps, veut son printemps. Et donc, tant qu'on n'aura pas sauvé l'Égypte de son Égypte, on n'aura pas fini l'histoire. Et comment c'est dit dans le texte de la Torah? Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Tant que Mitzrayim ne sait pas que c'est moi Hashem, c'est-à-dire tant que la partie la plus lointaine ne reconnaît pas mon identité divine, il n'y a pas de Géoula totale, il n'y a pas de Mashiach. Donc qu'est-ce que c'est que Mashiach? C'est reconnaître en fait qu'Israël a récupéré les noms et qu'aujourd'hui il faut se soumettre à Israël pour que Israël décode pour le monde entier ses manques. Donc aujourd'hui notre rôle c'est d'aller chez chaque nation et de lui dire, toi l'Amérique, ce qui te manque c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est nous, c'est notre rôle. Toi la France, c'est 6, 7, 8, 9, 10. Soit l'Espagne, l'Italie, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est à nous que revient ce rôle-là, parce que c'est nous qui avons les clés des noms. Et celui qui a le clé des noms, il a la clé de quoi? De toutes les combinaisons. Imaginez-vous, c'est comme une combinaison. Quand je dis par exemple le Moshe, Moshe c'est les mêmes lettres que Hachem, vous voyez bien. Donc je suis obligé d'utiliser Moshe pour libérer le nom. Non, le prosélytisme, c'est de changer l'autre en ce que je suis moi. J'ai pas converti l'autre. Je le laisse à sa place. Je respecte son identité et je lui apporte en réalité la valeur divine qui passe par moi pour lui, avec son niveau.
Dans son pays.
Je le transforme pas en moi. C'est ça le prosélytisme. C'est de faire d'un Chinois un Chinois juif. Misken, quel rapport? Mais c'est ce qu'on a fait avec les chrétiens et les musulmans qui veulent islamiser le monde aujourd'hui. C'est pas ça chez nous. Un chinois plus élevé, c'est un chinois qui arrive à arriver à un degré, pas au niveau de sa nation, mais au niveau individuel. Chez lui, c'est pas la nation, c'est l'individu qui arrive à des consciences, à des prises de conscience, et ça passe toujours, s'il veut vraiment arriver à un degré supérieur, par Israël. Même un individuel, okay. Il est obligé de passer par le code que le seul décodeur de l'histoire. C'est à nous qu'a été donné la Torah, c'est à nous qu'ont été de nous donner les noms, c'est tout. Exactement. Ils vont comprendre, Bayom Ahou, Yakiru Veyed ou Kol Yoshvet Tevel, tous les habitants de ce monde, qui a Malchut Shel Chahi, que la royauté est à toi, c'est tout. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est une reconnaissance d'Israël. C'est vrai? Zehu soda pasuk ve'el leshemot bnei Israël abayim Israël. Tout ce que je viens de vous dire, c'est écrit, mais on ne sait pas le lire. Dans vos traductions en français, le premier livre, le second livre de la Torah Shemot, il y a marqué, voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte, sont descendus en Égypte. Et vous, vous comprenez naturellement qu'il s'agit de personnes.
Oui.
Mais là, c'est pas ce qui est écrit. Ici, ce qui est écrit textuellement, c'est « Et voici les noms ». Pas les enfants d'Israël, les noms des enfants d'Israël qui viennent au présent en Égypte, vers l'Égypte. Ça change tout. C'est-à-dire en hébreu, j'aurais dû écrire « Ve'ele bnei Israël habayim Mitzrayim ». Voici les enfants d'Israël venus en Égypte, chez Baou, au passé. C'est pas ce qui est écrit. Et donc ce chidouche-là, c'est le Zohar HaKadosh qui nous le donne. Ce ne sont pas des êtres humains, proprement dit seulement, qui sont descendus en Égypte. Ce sont des noms, des définitions. Tu ne sais pas définir, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas être précis dans ce que tu dis. Ça prouve que tu es en Égypte. Donc tu as une expression qui n'arrive pas à s'exprimer. Tu es malade. Donc tu as une maladie. Ta diction n'est pas bonne. Diouk bapasouk ma'amid otan ou bifnei tofa'a me'anienet. Donc lorsque j'approfondis le verset et que je suis très précis dans ce qu'il dit, m'amène à une compréhension extraordinaire. Il ne s'agit plus d'hommes et de femmes qui sont descendus en Égypte. Ça c'est facile à comprendre. Mais il s'agit de leur nom. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un nom qui est tombé, qui est descendu, et en plus au présent ? C'est-à-dire que ça se passe tout le temps. Umegama kirida kashemot. Et donc, si je considère que ce sont les noms qui descendent en Égypte, il y a un but. Hiyetsia misham berechush gadol. C'est de ressortir de cette Égypte avec un gain. C'est-à-dire, j'ai gagné quelque chose dans cette descente aux enfers. Si je sors de l'Égypte sans avoir récupéré en fait les noms que je suis allé chercher, mais c'est comme si je suis rentré et je suis sorti en vain.
C'est un gain spirituel.
C'est un gaspillage. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit. Rov bnei ha'adam nichnasim lebatei knesset rekim, veyotzkim mehem rekim. La plupart des gens entrent dans des synagogues vides et en sortent vides. Parce qu'en réalité, ils vont là-bas pour dire des choses. Mais ils ne sont pas dans la chose qu'ils disent. Tu peux lire un bouquin, j'appelle ça un bouquin parce que c'est péjoratif justement, entier, pendant Yom HaKippourim, et tu n'étais dans aucun mot. Alors que si tu étais dans quelques mots, ne serait-ce que dans une phrase, dans toute la journée, de 24 heures ou de 25 heures, dans une phrase, mais tu y étais vraiment, c'est comme si tu as tout fait. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de finir le livre. Et on regarde toujours ce qui nous reste. Oh là là, on n'a fait que ça. Regarde ce pavé. C'est-à-dire, on est toujours dans le même schéma de la quantité au lieu d'être dans la qualité. Et c'est ça, d'ailleurs, la dernière guerre de Gog ou Magog. C'est la qualité qui va gagner la quantité. Et c'est ça, le peuple d'Israël. Je ne vous ai pas choisi pour votre quantité, sinon... On était fini déjà. Hagoel atzmo nikra Moshe. Donc le libérateur lui-même s'appelle Moshe Otiot Hashem. C'est-à-dire que le libérateur, par son nom, il y a déjà le code de ce qu'il est venu faire. Il est venu révéler le nom. Achaga metzayen et geulat mitzrayim nikra Pesach al Shem Pesach. Donc même la fête Pesach s'appelle la bouche qui dévoile la vie. Sach en valeur numérique. Sar c'est Samer c'est 60, et Kret c'est 8. 68 c'est la même valeur que Chaim. Donc Pesach c'est la bouche de la vie. Tu es parti là-bas pour sortir la vie qui était en réalité emprisonnée dans la mort. Bonikret, et qu'est-ce qu'on lit? Haggadah. Qu'est-ce que c'est Haggadah? La diction. Regardez, tout ce qui est relatif à Pesach ne parle que de la bouche. Pesach est une grande bouche. V'kol amarbe l'esaper b'yetiat mitzrayim hareze meshuvah. Et plus tu racontes, donc la bouche encore, la sortie d'Égypte, eh bien tu te bonifies.
Mais pourquoi il a fallu quand même descendre en Égypte pour créer le peuple d'Israël. Pourquoi il n'aurait pas pu...
Parce que tu ne peux pas. Tu peux pas. Parce qu'en réalité, la structure de base, elle est là-bas. C'est la matrice. L'Égypte, c'est la maman. La terre d'Israël, c'est pas notre mère, c'est notre femme. C'est différent. Tu dois quitter ta maman pour te marier. Si tu n'es pas capable de quitter ta mère, tu ne te marieras jamais. C'est pour ça que les hommes ont du mal à quitter la France, les États-Unis. Ils sont chez maman. Ils ont peur d'être autonomes et responsables avec une épouse. Il faut maintenant travailler pour la tenir, pour essayer de la nourrir, pour essayer de la vêtir. Les gens qui viennent en terre d'Israël pour recevoir sans arrêt, ce sont en réalité, ils n'ont rien compris à l'histoire. Tu viens sur la terre d'Israël pour soigner, pour aimer ta femme, pour aimer celle que tu aimes. Et quand tu aimes quelqu'un, tu le vois toujours beau, tu le vois toujours intelligent, tu le vois toujours bien. Regardez combien vous râlez sur la terre. Et comprenez comment vous êtes en rapport avec votre épouse. Donc Mitzrayim, c'est la maman. Donc c'est pas notre mère patrie, la terre d'Israël, c'est notre épouse. Et d'ailleurs, venir en Israël, ça s'appelle avoir un rapport intime. Ki tavou el haaretz, bi'a. Halechem, slicha.
C'est difficile parfois de faire le sevrage de
maman.
Parce que c'est pas seulement maman vieillit, alors qu'une épouse, elle est belle, et elle est belle en tout genre de choses.
On n'a pas dit de cracher sur maman.
Israël, par rapport à la France, c'est un beau pays, moderne, des conditions sociales...
Été. Aujourd'hui, si vous allez, c'est plus la même chose. Je ne sais pas combien de temps vous n'avez pas eu là, vous l'avez de ma mère, ça change, ça se dire. C'est dur, hein. Pas voilà. Monsieur, moi, j'ai rien fait, hein. C'est plus la même chose, hein. Sauf, il y a des nouveaux arrivants, là. Et je sais, c'est pour ça que je lui dis. Yelach yishuv tov, bracha v'atzlacha. Alechem she'anu ochlim bo, même le pain que nous mangeons à Pessah s'appelle lechem oni. Qu'est-ce que c'est lechem oni? Pas le pain de pauvreté. Lechem she'onim alav, un pain de réponse. Lechem she'onim alav dvarim harbe, c'est-à-dire que pas le pain de misère. C'est quoi toutes ces traductions à la noix? C'est le pain qui t'ouvre la bouche, qui te permet d'ouvrir la bouche, de parler. Hayayin she'anu metzuvim lishtot, le vin que nous devons boire, c'est en même temps la bouche. Toutes les choses. Kol mi shelo amar shlosha dvarim be Pesach lo yatsa yedei chovato. Pesach matza umaror. Tu dois dire les choses. Donc tout est une diction. Le premier korban, le lendemain de Pesach, c'est le Omer. Comment on l'appelle dans la Torah? Omer ha tnufa. Mazet tnufa? Élévation. Le Zohar nous dit tnufe. Omer ha tnufe. Donnez-nous une bouche. On veut une bouche. Pas bouche, hein. Lui, c'est à babouche, déjà.
Ouais, donc là, c'est la babouche.
Ou mikan shekol mitzvot achat kshurot la paix. Donc, toutes les mitzvot qui incombent à la fête de Pessah sont liées à la bouche. Comprenez bien, c'est extraordinaire, ça. Parce que la bouche, c'est l'homme. L'homme, lorsqu'il a été créé, a été défini comme étant un souffle parlant. Ruach memallela. Tant que tu ne sais pas parler, tu n'es pas encore un homme. Tu n'es pas encore une femme. Tu n'es pas un être humain. Shem perusho bitui vegilui. Donc le nom sous-entend un dévoilement, une expression. Chaque chose dans l'existence a un nom qui définit sa structure intérieure profonde. Yeridat Hashemot le Mitzrayim. Par conséquent, la descente des noms en Égypte, Perusho, He'elman ve'hastaratam, c'est tout simplement les faire descendre dans un endroit qui les cache, ces noms-là, et qui empêche leur expression. Donc tu n'as que des impressions et plus des expressions. L'évolution normale d'un artiste, c'est d'abord d'aimer les impressionnistes et après de passer à l'expressionnisme. C'est très important. Shelama Amarota Elohim. Et quels sont les noms qui sont descendus exactement en Égypte? Eh bien, ce sont les paroles divines qui ont été prononcées par le Créateur du monde lors de la création. Vayomer Elohim, Tachei Haaretz, Deshe, Etz, Esev, Zera, Lemineu. Tous ces combinaisons de lettres et de mots que Dieu a utilisés pour créer le monde. Baruch She Amar, Vehaya Haolam, Baruch Omer, Veose. Il dit et ça se fait. Donc tout a été dit. Eh bien, ces paroles-là, quand elles n'étaient pas encore données à quelqu'un, il n'y a pas d'interlocuteur pour l'instant, comment ça s'appelle? Ma'amar. Ani Omer. C'est-à-dire pour dire, j'ai pas besoin que tu sois en face de moi. Vayomer, Esav, Belibo. Écoutez bien. Esav se dit à lui-même. En lui-même, ça se passe. Il n'a pas besoin. Donc Dieu, quand il crée le monde, il n'y a personne à côté de lui. Donc l'expression de la Torah pour dire qu'il a dit, c'est Amar. Vayomer Elohim. Vayomer Elohim. Jamais vous verrez dans la création du monde Vayedaber. Parce que pour l'Edaber, il faut un interlocuteur. Quand est-ce que l'interlocuteur va arriver, qui est justement le peuple d'Israël? Seulement dans les 10 paroles. Donc ça va plus s'appeler Asara Ma'amarot, ça va devenir Aseret Adibrot. Et je suis en train de vous faire de l'ulpan. C'est ça?
L'ulpan toranique, quand même.
Et oui, mais c'est simple. Donc tous les Ma'amarot divins, chez Amdou Vipsi Sabria, qui étaient dans la racine, dans la structure même de la création, Baruch She'amar Ve'aya Olam, Baruch Omer Ve'oseh, bien tout ça s'est tombé dans les oubliettes. Ça, personne ne savait, maintenant je vous le traduis avec mes mots à moi, ça aussi c'est mes mots à moi, personne ne sait que Dieu a dit, donc personne ne sait qui est le Créateur. On ne reconnaît pas Dieu comme étant le Créateur du monde. Donc qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Hein?
Et
encore, parce que on demande à Dieu de rester dans son ciel. Ne vient pas nous embêter. Donc qu'est-ce qu'on construit? Des piliers. C'est ce qu'on appelle la tour de Babel. La tour de Babel, c'est pas pour monter parler à quelqu'un en haut, ils sont pas débiles les mecs. Il y a marqué « Na'aselanu smuchot la shamaim » des soutènements. Vous savez les piliers quand vous mettez un coulé en béton? Il y a plein de poteaux en fer comme ça dans la chambre. Mais on a dit à Dieu, reste là-bas. It's not today que le ciel nous tombera sur la tête. Et les gens, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Il y a même des Gaulois qui avaient peur de ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous croyez qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe? Ils avaient peur de changer leur structure humaine pour des structures divines qui va venir nous donner des lois. J'ai pas envie, moi. J'ai envie de faire ce que j'ai envie. Laissez-moi tranquille. Mitzrayim, c'est pour ça qu'on embête le monde, parce que Israël, quand il arrive dans ce monde humain, comme dernière nation apparue dans l'histoire humaine, elle vient avec quoi? Avec une valise de quoi? De toutes les valeurs divines qu'on a descendues sur terre. Donc qu'est-ce qu'on veut faire à ce Israël? On veut l'éliminer. On lui dit, mais attends, mais repars d'ici. Qu'est-ce que tu es venu nous embêter avec ta morale? Tu es en train d'affaiblir le monde avec ta morale. Donc je vais te rentrer dans des fours, monsieur. C'est ça qu'il a fait Hitler. Parce qu'on était trop dans la morale. Et pour lui, la morale, c'était une faiblesse. Le peuple d'Israël est tellement dans la morale qu'il est auto-idiot des fois. Regardez ce qui se passe autour de nous. On ne sait même plus où sont les mesures tellement on est dans la moralité. Donc l'Égypte n'est qu'un tremplin pour descendre et ressortir de là-bas en ayant libéré le Verbe. Eh bien, ça se passe tous les jours. C'est pour ça que le texte est au présent. Si vous lisez ça comme une histoire, encore une fois, vous êtes en dehors du système, c'est dommage. Aujourd'hui aussi, toi-même, tu ne sais pas exprimer, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas dire les choses. Jusqu'à la conclusion générale d'un être qui ne sait pas s'exprimer, ah, c'est pas grave, je me comprends. Alors, quand tu ne sais plus quoi dire, tu dis, oh, ben, je me comprends. Non, s'en fiche que tu te comprennes. Moi, je t'ai pas compris. Ça sert à rien de venir à mon cours si vous ne comprenez pas, vous sortez pas avec quelque chose. C'est sûr que je me comprends, moi, heureusement. Il a fait. Ça veut dire qu'il y a une étape, des étapes dans le monde. Akadosh Baruch Hu dit un Mahama, et il prévoit, dans sa grandeur infinie, qu'un jour, un peuple, pas quelqu'un, qu'il a choisi déjà, qui va se révéler dans le monde, va révéler au monde cette création. C'est ça la force. Yetziat Mitzrayim megala et Am Israël. Et donc la sortie d'Égypte, quelle est la clé, deuxième clé maintenant, ou troisième, peu importe, la plus importante de la sortie d'Égypte, c'est le dévoilement de la nation en question. C'est là où on va choisir en réalité qui est le premier né de l'histoire. Toutes les nations veulent jouer ce rôle. Paro, qu'est-ce qu'il disait?
C'est moi
le premier né. D'ailleurs, il était premier né. Donc, la première parole que Moshe vient lui dire, est-ce qu'il lui parle des 10 plaies? Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu ne libères pas mon peuple, tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir. C'est-à-dire, il lui dit déjà la 10e plaie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne devait pas y avoir 10 plaies. Ça veut dire que la contradiction entre Moshe et Paro, c'est qui est l'aîné du genre humain. Vous comprenez? Tout se joue là-dedans. Mais vadaï, c'est pour ça que depuis la création du monde, tous les aînés veulent tuer le deuxième fils. On l'a étudié la semaine dernière. Lo roseach. Roseach. Megale et Am Israël. Asher nifrar lifrol et agilou ya Elohim ba'olam besod v'acharechen yetzou birchush gadol. Donc qu'est-ce que c'est que acharechen yetzou birchush gadol? Comment on va sortir? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ressort avec des biens? Alors là-bas dans la Torah, ça s'appelle, d'une manière codifiée, Klei Kesef, Klei Zahav Vesmalot. C'est-à-dire on a rapporté de l'or, de l'argent et des vêtements. C'est ça qu'on a sorti d'Égypte. Alors qu'est-ce que c'est d'après vous, Klei Kesef? Des étincelles de quoi? Pourquoi Kesef? Alors quelle différence? Dis-moi, des étincelles, pourquoi Zahav Kesef? Kesef, c'est Kesef. Qu'est-ce que ça vient du mot en hébreu qui souffle, qui veut dire un désir, une tchouka, un nirsas, nirsasti. Donc qu'est-ce que c'est un désir de l'autre, c'est pour ça que l'argent est rond. C'est-à-dire qu'il roule tout le temps de l'un à l'autre. C'est ça qu'on appelle zouz. Matin zouz, c'est deux fois je bouge, 200 fois je bouge. Mais zouza, c'est la même racine. Rabotai, la langue du Kodesh, c'est une merveille. Donc, ça c'est Klekes. Zahav, c'est quoi? C'est la capacité à recevoir. Zahav. Ça, c'est donne. Zahav veut dire donne-moi. En araméen, Zahav veut dire donne-moi. C'est-à-dire la capacité aussi à savoir ce que j'ai besoin. Et ce malot des vêtements, c'est quoi? Eh bien, c'est des noms qui cachent une certaine énergie pour la révéler. Regardez, je me suis habillé pour venir me dévoiler. C'est bizarre quand même, c'est un paradoxe. Je me suis couvert pour venir apparaître. J'aurais dû me déshabiller, non? Mais il n'y aurait plus personne ici. Je me couvre pour dévoiler. C'est incroyable. Eh bien, c'est la même chose. Même au niveau de ma neshama. Qui est en train de vous parler maintenant? Maneshama. Mais heureusement qu'il y a mon corps qui vous rassure. Qu'imaginez-vous maintenant, je m'en vais et je laisse ma Neshama parler. Elle n'a pas besoin de mon corps. En réalité, elle utilise ma bouche. Mais là, vous aurez dit, oh là là, on a eu une expérience. Mais en réalité, je vous rassure, vous avez eu la même expérience. Ça fait une heure qu'une Neshama est en train de vous parler. Ouh. Mais oui. Et le pire, c'est que je parle à des Neshamot. Ça veut dire quoi? Que sans le vêtement, donc maintenant c'est pas seulement le vêtement, c'est tout ce qui habille s'appelle un vêtement. Donc le premier vêtement, c'est les lettres. Les lettres sont des vêtements. Et avec ces vêtements, tu peux avancer. Ça s'appelle en français, les vêtements, ça sert d'auto. Oui. Sacerdotal. Au pluriel, sacerdoto. Ça veut dire qu'en réalité, les vêtements sont des véhicules. Les lettres sont des véhicules. D'ailleurs, comment on dit une lettre en hébreu? Ata. Ata veut dire en araméen, venir. Ata Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est venu. Ça veut dire que quand je dis Ata, c'est une lettre. Donc je fais venir une énergie qui s'habille dans la lettre. Et c'est pour ça que les lettres dans la Torah sont obligatoirement, quelle couleur? Noir. On ne peut pas faire d'autres couleurs. Pourquoi? Parce que le plus grand des vêtements, c'est le noir. Le noir, c'est le désir de recevoir le plus grand. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans un Sefer Torah? On a noirci des parties de blanc. Ça veut dire que, en fait, le texte était déjà dans le blanc. Seulement tu ne le voyais pas, parce qu'il n'y avait pas de vêtements. Donc j'ai habillé avec des vêtements différents. Le Aleph c'est Jean-Paul Gaultier, le Beth c'est Hugo Boss, le... Mais c'est la même chose. Ce sont des vêtements. Et si tu mélanges tous ces vêtements, ça donne une matboucha, et donc ça marche pas. Le Sefer Torah n'est pas... On peut pas lire dessus, c'est pas soul. Donc il faut un espace entre chacun de nous. Donc je dois respecter l'autre et son espace vital.
Donc, c'est bien les différences.
Donc il faut différencier les lettres. Très important tout ça. C'est dommage, on a fait 10 lignes, mais bon. Vous pouvez terminer chez vous après.
On continue.
So. Donc tout le processus de la descente en Égypte, en réalité, ressemble étrangement à la descente d'une âme dans un corps. C'est tout. Papa et maman, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sons de quoi? Un corps. Eux, ils ne s'occupent pas de l'aneshama. L'aneshama, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait descendre. Eux, ils donnent juste un clic. C'est tout. Ils donnent de la chair. Donc, papa et maman sont responsables du vêtement. Akadosh Baruch Hu est responsable du... de l'essence. C'est tout. Shlosha Shutafim Ba'adam. Donc, il y a trois associés.
Qui donne le
Zahav et Kesef? C'est ça le Zahav et le Kesef. Kesef et Gvoura, c'est les hommes, non? Ça, c'est les hommes. Et les bouches aussi. Tout ça, c'est un les bouches. Akadosh Baruch Hu donne le Tochen. Donc, Aneshama le Tochagouf, les galot Tosefet, Ilouï, Derechota, Itlapsut, Dafka. Donc, précisément parce qu'il y a un vêtement, tu peux commencer à dévoiler. Donc, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je parle. Donc, j'habille. J'habille qui? Ma pensée. Et donc c'est là où on peut voir si quelqu'un est sage ou pas. Comment est-ce qu'il habille sa pensée dans des mots? Sans bégayer. Ah, c'est exprès. Pourquoi Moshe bégaye donc? Parce qu'il est en réalité la température de qui? Du peuple d'Israël qui a un manque d'expression, donc même le chef ne peut pas parler, donc il bégaye. Mais quand il sort d'Égypte et qu'on a libéré, ah, bien sûr, Moshe, tout le monde chante, il n'y a plus de bégaiement. Jamais vous n'entendrez Moshe bégayer, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bégaiement, en réalité, c'est lorsque le vêtement n'est pas correspondant à la pensée que tu veux dire, ou trop rapide, ou pas assez. Il faut mesurer en réalité le dialogue entre les deux. Là aussi, c'est un homme et une femme. La pensée est un homme. Et la bouche est féminine. Donc elle dévoile. Eh bien, il faut qu'il y ait un mariage normal entre les deux pour que l'expression de la bouche soit belle.
C'est quoi une grâce là, du charbon et du zahar?
Ah, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a pris quoi?
Le charbon
au lieu de prendre l'or. Pour se brûler, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce midrash? Qu'est-ce qu'il vient nous raconter, en fait? Que Moshe Rabbeinu, son but, c'est de soigner en réalité ce pourquoi l'homme a été créé. Donc, je vais un petit peu exagérer. Ne rentrez pas dans les termes. Le premier Gilgoul de Adam Harishon, réellement, qui c'est? Moshe. Parce qu'Adam Harishon a fauté par quoi? Par sa bouche. Par sa bouche, c'est la même chose. En bas, la brise, comment elle s'appelle? Mila. Eh bien, en haut, c'est Mila aussi. Donc, il y a deux millimes. Mila, ve Mila. Quand vous dites Brit Mila, c'est une alliance par la parole. Et vous, vous avez l'impression que Brit Mila, c'est juste en bas.
Excusez-moi, pourquoi on dit souvent que le silence est supérieur à la parole?
Il y a fait. Il y a fait. Il n'y a pas marqué qu'il est supérieur. Non, n'essayez pas de m'embrouiller. Il y a marqué « Seyag le chokhma shtika ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut voir si vraiment tu es sage, tu fais un seyag. Mais un seyag? Une barrière. Ça veut pas dire que tu parles pas. C'est que tu sais parler quand il faut parler, tu sais te taire quand il faut te taire. C'est ça le inyan. Et malheureusement, les gens parlent quand il faut se taire et se taisent quand il faut parler. D'accord? Ve makom she'en bo anashim hishtadel liot ish. D'accord? Beota mida bediuk lo yachol am Israël atril betafkido le saper tehilat Hashem. Bon, quel est le rôle d'Israël d'une manière générale? De raconter. Le saper. Or, le mot le saper en hébreu veut dire aussi. Compter, mais en même temps, couper. Ça part. Donc quand tu vas chez le coiffeur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrêtes pas de parler. Chez les coiffeurs, tu racontes tout, on dirait une psychothérapie. Le mec, il est en train de se faire comme ça et tu racontes ta vie. Surtout les femmes. Quel? Les mecs aussi. Quel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sapar est là pour nous raconter quelque chose. En même temps qu'il coupe les cheveux en quatre. Et sefer, c'est la même racine. Donc, les sapers, c'est en réalité mettre en tranche, en sirote, en compte, l'unicité de l'infini. Parce que moi, l'unicité de l'infini, je ne le comprends pas. Je ne la comprends pas. Donc, lorsque lui parle en code que je ne comprends pas, qui est un code unitaire, moi, tout de suite, en bas, il faut que ça vienne par deux. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Donc j'ai deux oreilles. Je ne peux pas entendre un cours de Torah avec une seule oreille. Je suis obligé d'étudier en stéréophonie. C'est-à-dire, deux sons de cloche. Donc c'est bien que vous écoutiez d'autres cours. C'est important pour vous faire après une synthèse. Mais tu dois savoir aussi, de temps en temps, voir ton niveau. Comment tu peux juger, ou plus exactement, jauger ton niveau aujourd'hui? En allant ailleurs. Tu vas aller ailleurs. Ça veut dire que tu es en train de prendre conscience de ton niveau d'études. Baruch HaShem. Donc le corps s'appelle l'Égypte. Toda Rabba. Bracha. Ezrat Hashem. Yesiat Mitzrayim Yisod Leida. Donc la sortie d'Égypte n'est qu'un accouchement. C'est tout. Et qui dit ça? Le Harizal. Le Hari Akadosh nous dit la sortie d'Égypte c'est un accouchement, c'est tout.
Voilà, on accouche et après on vient, on donne un tété.
Nahr, exactement. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Donc, combien de cris pousse la femme qui accouche?
Aucun.
70, nous dit la Kabbalah. 70 sons. Elle sort de son truc, de sa gorge. 70 sons. Qu'est-ce que c'est que ces 70 sons? Ce sont en réalité toutes les nuances qu'elle va exprimer pour dévoiler ce bébé. D'ailleurs, je ne rentre pas dans tous les détails, mais en réalité, c'est les plaies d'Égypte. Rondam, c'est la première chose. Tu sors du sang. Fardea, c'est l'eau. Sipor de Aïn. Donc la, l'oiseau des 70 sons. Kinim, il faut comprendre ce que c'est dans l'accouchement. En fait, toutes les étapes. Je n'ai pas donné tout. Ouais, une bonne mémoire. Baruch Hashem. Je tâcherai, Bezrat Hashem, de corriger cette lacune. Haubar mitpater bebeten mitzrayim. Donc, on va terminer avec ça. Le fœtus qui se dévoile, qui se développe plus exactement dans le ventre égyptien. C'est tout simplement l'histoire divine. C'est ça le bébé qu'on est allé chercher. Qui est dans le ventre, dans la matrice égyptienne. Donc, au moment de la création du monde, Dieu était seul. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, tout était ma'amar, velo dibur. Ken? Achidush veyetiat mitzrayim ou afichat ma'amarot le dibros. Donc, la nouveauté dans la sortie d'Égypte, c'est de transformer les ma'amarot en diberot. Amechuvanot le am Israël. Parce que maintenant, il y a un interlocuteur, le peuple d'Israël. Donc il devient un associé réel, actif, dans le dévoilement des valeurs du ciel sur terre. Donc, Beyetiat Mitzrayim, offert à Israël les Dovro Shel Ha'el. La sortie d'Égypte nous a rendu le porte-parole du Créateur.
Quand il dit
Vaïdaber
Hachem
El Moshe
Lemo. Il n'y a jamais Vaïdaber Moshe Hachem El Yitzhak.
Nachon, Nachon. Vayomer. Parce qu'en réalité, il n'y a pas encore de nation. Ah. Et d'ailleurs, le mot Hachem n'apparaît pas vraiment quand tu veux parler à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on le dit.
Je ne connais pas toute la Torah par cœur.
Moi non plus, c'est pas grave. El Shaddai, Nodat Ilhem. Ushmi Hashem Yudkevake Lonodati. Je me suis exprimé à eux avec mon nom de Shaddai. Qu'est-ce que c'est Shaddai qui donne des limites? Shaddai. Je peux pas leur dire Yudkevake. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore le peuple d'Israël. L'apparition de Yudkevake, c'est seulement avec l'apparition du Ram Israël. Encore une preuve que la Torah n'est pas une religion.
Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël pour enfanter?
Bien fait. Très bonne question. Mitzrayim représente en fait toute la capacité, ce qu'on appelle Ervat Haaretz. Je vais rentrer en fait dans une autre considération. Mitzrayim, c'est en réalité la partie sexuelle de la femme. Et on l'appelle en réalité la sexualité de la terre. Donc c'est de là-bas que tout naît. On est obligé de naître en Égypte. C'est-à-dire que, même géographiquement, ça veut dire que l'idée Égypte et la terre Égypte doivent être à un moment donné ensemble pour que tout naisse de là-bas. Et je vous l'ai dit un petit peu au départ de mes paroles, c'est que c'est l'antithèse même, ou c'est en réalité la parenthèse avec l'infini. Il y a l'infini béni soit-il, et il y a l'Égypte, qui est l'infini du côté négatif. Et toute l'histoire, c'est au milieu. C'est d'arriver en fait à remonter de l'Égypte pour rejoindre en fait ces deux degrés. Et qui fait cet intermédiaire? Israël. C'est ça notre rôle dans l'histoire. C'est-à-dire, donc le mot Mitzrayim, il faut savoir que Mitzrayim, c'est la suite du cours, parce qu'il n'y a pas marqué les Mitzrayim. Ve'el eshmod bnei Israël, Abayim, Mitzrayim. Mitzrayim. Quelle est la valeur? 40 et 40, 80, plus 10, 90, 290, plus 90, 380, plus 5, 385, correspondant à quoi? Safa. Shin, 300, Pei, 80, He. et qui correspond à Shrina. Je ne veux pas l'écrire ici. Shrina, c'est la même valeur numérique que l'Égypte. Donc, tant que la parole de Dieu est en Égypte, ça s'appelle Mitzrayim. Dès qu'elle sort, ça s'appelle Shrina. C'est ça, justement, on a dévoilé. C'est pour ça que la Shrina, après, elle vient dans le temple. C'est fait Vaïkra. Eh bien, c'est ça, justement. Vous êtes venu voir comment Akadosh Baruch Hu est en train de tramer son histoire. Comment on va sortir de là le peuple d'Israël. C'est bien. D'autres questions? Eslam Aleko. Toda Rabba.